Le journal est présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. Emmanuel Macron change de pied sur la réforme des retraites. Il veut désormais jouer sur la durée de cotisation plutôt que sur l'âge de départ. Mais l'objectif reste le même, ramener le régime à l'équilibre. Les explications d'Anne-Laure Jumet dans un instant. Première discussion à l'Assemblée sur le projet de loi qui ouvre la PMA à toutes les femmes. Les partisans et les adversaires du texte ont exposé leurs arguments devant la commission spéciale. Le reportage d'Adrien Serrière. Une délégation du Rassemblement national est arrivée en Syrie aujourd'hui. Alors que le régime Assad assiège la région d'Idlib, une délégation emmenée par le député européen Thierry Mariani qui est l'invité de ce journal. Boris Johnson espère encore renégocier le Brexit avec l'Union européenne. David Frost, le Sherpa du Premier ministre britannique, sera à Bruxelles demain. Son portrait avec Antoine Gignot dans ce journal. Emmanuel Macron a-t-il désavoué Jean-Paul Delevoye, son haut-commissaire à la réforme des retraites, hier soir sur France 2? En tout cas, le président s'est dit favorable à un accord sur la durée de cotisation, là où Jean-Paul Delevoye préconise un âge pivot pour le départ à la retraite, 64 ans. Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, approuve la position présidentielle. En revanche, le patron du MEDEF, Geoffroy Roux-de-Bézieux, redoute une manœuvre destinée à enterrer la réforme. Anne-Laure Jumet, quelle que soit la solution qui sera retenue, il s'agit de redresser durablement les comptes de notre système de retraite.
Oui, car l'objectif du gouvernement, c'est de démarrer cette réforme en 2025 avec un régime des retraites sans aucun déficit. Pendant la campagne présidentielle, quand le chef de l'État annonce la fusion des 42 systèmes existants, les prévisions sont bonnes. Pas de problème à l'horizon. Mais depuis, les projections ont été revues et corrigées. Et dans le dernier rapport, le Conseil d'orientation des retraites table sur un solde négatif de 10 milliards d'euros en 2022, avec un retour à l'équilibre prévu au mieux en 2042. Alors l'âge de départ pivot avec un système de bonus-malus, c'était le moyen préconisé par Jean-Paul Delevoye pour revenir dans les clous, mais Emmanuel Macron a donc marqué sa préférence hier pour l'allongement de la durée de cotisation. Et ce levier, il a déjà été utilisé par le passé pour faire des économies. La réforme Fillon, puis la réforme Touraine, 43 annuités de cotisation en 2035 contre 41,5 aujourd'hui. Le gouvernement reprendra sûrement cette référence avec un calendrier accéléré. L'avantage de cette solution, c'est de ne plus afficher d'âge de départ. Ceux qui ont commencé à travailler tard partiront plus tard. Ceux qui ont commencé tôt, plus tôt. Reste à faire de la pédagogie auprès des Français. Ça tombe bien. Le gouvernement a prévu de longs mois de discussions. Une concertation citoyenne est organisée, notamment avant de présenter son projet de loi.
Anne-Laure Jumet, chef du service économie de France Culture. Merci. Le gouvernement qui prépare une autre réforme majeure, l'ouverture de la PMA à toutes les femmes. Le projet de loi bioéthique arrive à l'Assemblée fin septembre. Mais dès aujourd'hui, les 72 députés de la commission spéciale chargée d'examiner le texte ont commencé leurs auditions. Adrien Serrière, les députés ont pu entendre les partisans de la réforme, mais aussi ses adversaires comme la Manif pour tous.
En préambule, la présidente de la Manif pour tous, Ludovine Delarochère, a pris soin de remercier la commission de son invitation, mais n'a pas tardé à rentrer dans le vif du sujet. Selon elle, le projet de loi a été établi de façon hâtive et imprécise.
Tout se passe comme si finalement, les conséquences et les implications soulevées était sans importance, sans intérêt secondaire. Finalement, on y va parce qu'on l'avait déjà décidé à l'avance. Pourtant, comme l'avait souligné le Comité consultatif national d'éthique, il s'agit bien du monde que nous voulons pour demain, du monde que nous laisserons aux générations qui viendront après nous.
Voilà pour le ton. L'objectif de ces entretiens pour l'exécutif est bien sûr d'amener de la sérénité dans le débat, dialoguer avec tout le monde pour éviter un embrasement, comme lors de l'adoption du mariage pour tous en 2012. Ce matin, les députés ont d'ailleurs entendu des associations pro-PMA qui peuvent aussi avoir des choses à redire. Par exemple, sur la question de l'accès aux origines, le texte actuel permettrait aux enfants de couples homosexuels issus de PMA de connaître l'identité du donneur à leurs 18 ans, ce à quoi n'ont pas accès les enfants nés d'une PMA au sein d'un couple hétérosexuel ou de mère célibataire. Attention donc à ne pas créer des inégalités, a plaidé Fabien Joly, le porte-parole de l'association des familles homoparentales.
Ce que propose le projet de loi, c'est pour les couples hétérosexuels de continuer à faire croire en droit que ces enfants, alors même qu'il y a eu tiers donneur et alors même qu'il y a eu acte médical, seraient nés par voie charnelle. Et je ne vois pas fondamentalement pourquoi maintenir une telle supercherie. Il n'y a rien, comme je l'indiquais, d'infamant à être conçu par don.
Le projet de loi pourrait encore évoluer dans les prochaines semaines. Demain, les auditions continuent sur le volet scientifique. Jeudi, autour des responsables de culte d'être entendus.
Adrien Serrière, merci. L'arrêté anti-pesticide du maire de Langouette en Ille-et-Vilaine a été suspendu aujourd'hui par le tribunal administratif de Rennes. Le juge des référés a estimé que l'élu écologiste Daniel Cueff n'avait pas la compétence juridique pour prendre un tel arrêté. C'est la préfecture de Rennes qui avait saisi le tribunal administratif. Le maire de Langouette annonce son intention de faire appel. En Syrie, les combats font rage dans la région d'Idlib, le seul secteur encore tenu par la rébellion essentiellement islamiste. Au moins 60 morts aujourd'hui dans les deux camps, 29 combattants pro-régime et 31 rebelles, selon un bilan fourni par l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Le régime Assad, appuyé par l'aviation russe, a lancé le 8 août dernier une vaste offensive terrestre contre Idlib. Et c'est dans ce contexte qu'une délégation d'élus français du Rassemblement national est arrivée en Syrie aujourd'hui. Une délégation emmenée par le député européen Thierry Mariani, l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy, désormais rallié au RN. Thierry Mariani, qui est l'invité de ce journal depuis Damas. Bonsoir.
Bonsoir.
Thierry Mariani, ce déplacement en Syrie, c'est pour soutenir le régime Assad qui tente actuellement de reconquérir la région d'Idlib?
C'est pas pour soutenir un régime, c'est pour d'abord voir ce qui se passe dans ce pays. Quand on est parlementaire, j'estime que c'est normal, dans des endroits qui sont sensibles, par moment d'y aller par soi-même pour se rendre compte. Ensuite, c'est pour soutenir certains qui ont beaucoup souffert. Les premières fois où je suis venu dans ce pays, c'est mon 7e voyage depuis 2014, c'était avec SOS Chrétiens d'Orient, et la communauté des Chrétiens d'Orient a beaucoup souffert. Et puis ensuite, je ne soutiens pas un régime, mais en tant que parlementaire, mon souci, c'est de me dire toujours quel est l'intérêt de la France. L'intérêt de la France, aujourd'hui, c'est de lutter contre le terrorisme. Et en Syrie, je ne prétends bien sûr pas que le régime soit parfait, mais je dis simplement qu'aujourd'hui, entre des gens qui mettent des bombes et qui assassinent des gens dans les rues en France, qui assassinent des journalistes à Charlie Hebdo, qui assassinent au Bataclan, et un régime qui est un régime bien sûr autoritaire, bien sûr qui pendant la guerre civile, il y a des victimes des deux côtés, eh bien je préfère la victoire de ce régime parce qu'au moins c'est la défaite de ceux qui mettent des bombes en France.
Est-ce que vous allez rencontrer Bachar el-Assad ?
On n'est jamais sûr parce que pour des raisons de sécurité, on vous l'annonce à la dernière minute. Mais vous savez, c'est mon 7e voyage dans ce pays et je l'ai rencontré déjà 5 fois dans mes 6 précédents voyages. D'autre part, vous savez que je suis avec une délégation où il y a Virginie Joron et Nicolas Bay, député européen comme moi. Il y a Andrea Cotarac, ancien conseiller régional Rhône-Alpes. Donc je serais surpris qu'on ne le rencontre pas.
Thierry Mariani, d'une façon générale, vous contestez la politique syrienne de la France qui refuse de renouer avec le régime Assad ?
Écoutez, la politique syrienne de la France, c'est une catastrophe depuis François Hollande. Voilà, c'est tout. La politique étrangère, ça consiste à regarder la réalité et par moments à discuter avec des gens qu'on n'aime pas forcément. La réalité aujourd'hui en Syrie, c'est d'abord une guerre civile horrible qui dure déjà depuis 8 ans. Une guerre civile où la population, les militaires ont été en première ligne. Et personne ne sait les vrais chiffres, mais on peut dire clairement qu'il y a à peu près 300 000 morts. Une guerre civile où la France, par moment, a armé les terroristes. Et donc aujourd'hui, cette guerre civile est en train d'être gagnée par le gouvernement légal de Syrie. Et il faudra bien discuter avec eux. Voilà, quand on me dit que ce gouvernement est un régime qui ne respecte pas les valeurs démocratiques, vous avez raison. Mais est-ce qu'on ne discute pas avec l'Arabie Saoudite ? Est-ce qu'on ne discute pas avec le Qatar ? Et aujourd'hui, si le combat contre Al-Qaïda et Daesh a été gagné, c'est bien sûr parce qu'il y a eu les forces kurdes, les forces alliées qui ont combattu au nord, mais c'est aussi parce que l'armée syrienne a été en première ligne et a gagné ce combat. Voilà, si le régime, si le gouvernement syrien s'était effondré, qu'est-ce qu'on aurait aujourd'hui ? On aurait un califat à Damas. Donc aujourd'hui, je pense que cette guerre est en train d'être gagnée par le gouvernement syrien, par Bachar el-Assad. Je pense que, je pèse mes mots, c'est une bonne chose pour la France. C'est une bonne chose pour la France que les terroristes perdent. C'est une bonne chose que les extrémistes soient éliminés. L'intérêt de la France, c'est de reprendre les relations. Et si vous me permettez un exemple historique, je vais citer François Mitterrand. Vous savez que c'est pas ma culture, je suis plutôt quelqu'un de droite. Mais souvenez-vous, au début des années 80, je crois que c'était 82, la France a eu l'un de ses ambassadeurs assassiné au Liban. Et un an après, on a eu ce qu'on appelle l'immeuble Drakkar, où une 60aine de nos parachutistes ont perdu la vie. Et tout laisse à penser que la Syrie n'était pas, éloignée des responsabilités de ce qui s'est passé. Eh bien, un an après, François Mitterrand a pris la route de Damas, est allé discuter avec Assad et a fait un accord. Voilà, le sens de l'État, c'est par moments savoir discuter avec ceux qu'on a pu combattre pour trouver un accord dans l'intérêt de la France.
Dernière question, Thierry Mariani, vous travaillez à la constitution d'une association franco-syrienne, je crois, pour le rétablissement des relations entre les deux pays. Où en est votre projet ?
C'est l'un des objectifs de cette visite aussi. Vous savez, quand je suis venu la première fois à Damas, les bombes tombaient tout autour de nous, et y compris l'hôtel, on n'était pas en sécurité. Aujourd'hui, vous passez la frontière, les gens sont même plus armés. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que même si les combats, je le sais très bien, continuent à Idlib et dans quelques poches, aujourd'hui la Syrie se tourne vers la reconstruction et se tourne aussi vers la réconciliation. Je pense qu'il est temps de voir comment on peut rapprocher notamment les sociétés civiles, parce que dans un premier temps, ça commence toujours par là. Ça peut être des manifestations culturelles, ça peut être des manifestations d'ONG, etc. Et donc le but aussi de ce voyage, c'est de faire en sorte de lancer cette association pour peut-être, avant que les contacts politiques reprennent à un haut niveau, et de faire en sorte que les peuples se comprennent un peu mieux.
Thierry Mariani, député européen du Rassemblement national, joint tout à l'heure à Damas, la capitale syrienne. Le Royaume-Uni de Boris Johnson va-t-il obtenir de l'Union européenne de nouvelles négociations sur le Brexit ? Le nouveau Premier ministre britannique envoie demain à Bruxelles son Sherpa chargé du dossier, David Frost. La tâche s'annonce rude car les dirigeants européens et leur négociateur Michel Barnier n'ont pas l'intention de renégocier l'accord conclu avec l'ancienne Première ministre Theresa May. David Frost va tout de même essayer d'arracher des concessions, notamment sur la question de la frontière irlandaise. Portrait d'un fin connaisseur de la politique européenne avec vous, Antoine Gignot.
C'est un homme de l'ombre, un habitué des coulisses. David Frost a passé au total plus de 20 ans au ministère des Affaires étrangères britannique, conseiller, diplomate, ambassadeur au Danemark dans les années 2000. Il maîtrise tous les rouages de l'Union européenne, mais reste un eurosceptique convaincu. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Boris Johnson lui fait confiance. Il l'a rencontré lorsqu'il était ministre, il a travaillé avec lui jusqu'en 2018 et il partage, comme lui, la conviction que les Britanniques doivent s'éloigner de Bruxelles. Dans un article publié en 2015, il explique d'ailleurs clairement quelles sont pour lui les meilleures méthodes de négociation avec les 27. Il faut d'abord nouer des alliances avec d'autres pays pour avoir des appuis, dit-il. Il faut surtout ensuite faire croire à l'adversaire que ce que l'on réclame est parfaitement normal. Mais même s'il a de l'expérience et des réseaux, David Frost manque de temps. Il n'a qu'un peu plus de 2 mois pour proposer des solutions nouvelles au problème de la frontière irlandaise et pour briser l'unité qu'affichent depuis 3 ans les responsables européens.
Antoine Gignot, correspondant de France Culture à Londres. L'heure n'est toujours pas à l'apaisement dans les relations franco-brésiliennes. Jair Bolsonaro pose désormais des conditions pour accepter l'aide du G7 face aux incendies de forêt en Amazonie. Lors du sommet de Biarritz, Emmanuel Macron avait annoncé 20 millions de dollars pour financer notamment des Canadair. Eh bien, le président brésilien attend un geste de son homologue français. Lui, Jair Bolsonaro, qui avait approuvé un message insultant pour Brigitte Macron. Juliette Onsa nous appelle de Sao Paulo.
Jair Bolsonaro est monté au créneau une nouvelle fois contre Emmanuel Macron. Il n'acceptera son aide qu'en échange d'excuses. Le président français avait traité Bolsonaro de menteur. Il lui avait promis la main sur le cœur de s'engager pour le climat avant de faire tout le contraire. Pour Bolsonaro, cette offre d'aide financière est une tentative de la part du président français de capitaliser sur le drame de l'Amazonie. D'après une note du ministère des Affaires étrangères brésilien, c'est une initiative redondante avec des insinuations ambiguës quant à la souveraineté nationale. Emmanuel Macron a déjà annoncé s'opposer à l'accord de libre-échange Union européenne-Mercosur. Plusieurs ministres et hommes politiques ici au Brésil ont manifesté leur rejet vis-à-vis des positions françaises, critiquant vivement eux aussi le président Macron. Dans ce contexte de grande tension, le gouvernement brésilien s'est montré favorable à l'aide du Chili, de l'Équateur, d'Israël et des États-Unis pour lutter contre les flammes en Amazonie.
Juliette Onsa, correspondante au Brésil. En Italie, le mouvement 5 étoiles et le Parti démocrate ont repris leurs discussions ce soir pour tenter de former un nouveau gouvernement. gouvernement. Les 5 étoiles avaient dans un premier temps refusé de poursuivre les négociations car le mouvement anti-système exige la reconduction du Premier ministre sortant Giuseppe Conte, une condition désormais acceptée par le Parti démocrate. La météo demain, plutôt ensoleillée le matin, mais l'après-midi un ciel d'orage arrivera sur la moitié nord. Un temps instable également près de la Méditerranée, température minimale de 15 à 23 degrés du nord au sud. Les maximales en légère baisse de 20 à 33 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Nathalie Lopez.